French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Bah, j'ai appelé mon gynécologue et je suis tombée sur une dame d'un certain âge à l'accueil. Donc je lui ai dit, voilà, je suis enceinte, on ne peut pas le garder. Et elle m'a dit, je ne comprends pas, vous voulez quoi ? Juste pour me faire dire, bah, je veux avorter. Et puis elle m'a dit, ah non, mais on ne fait pas ça ici. Et puis il y a eu un grand blanc et je lui ai dit, bah, je fais quoi ? Elle me dit, ah bah, vous pouvez essayer le Planned Parenthood, donc l'équivalent du planning familial. Je pense qu'elle a vu que j'étais un peu, voilà, j'étais au bord des larmes. Je pense qu'elle l'a un peu senti. Elle m'a dit, vous voulez parler quand même à l'infirmière? Et puis je lui ai dit, bah oui. Et donc elle m'a demandé mon numéro, etc. Pour, voilà, elle m'a demandé mon contact pour pouvoir que l'infirmière me rappelle plus tard. C'était le premier jour des vacances des enfants. Forcément, l'infirmière m'a rappelé, j'étais en voiture avec les enfants, donc je pouvais pas parler. Entre-temps, moi, j'ai appelé le Planned Parenthood et ils avaient un rendez-vous 2 semaines après. J'avais déjà des nausées. Je me suis dit, je peux pas attendre 15 jours. En fait, j'ai des enfants. Si je suis malade, comme j'avais été malade avec ma fille et mon deuxième fils, c'était juste pas possible. Je pouvais pas. J'avais pas 15 jours, en fait. Et puis, j'étais sûre de ma décision.
Justine a 30 ans. Elle est mariée à l'homme de sa vie, Michael. Elle est la maman comblée de 3 enfants et à la tête d'une entreprise florissante de création de nœuds en tout genre pour les enfants, French Cuties. Après près de 10 ans, pas loin de la ville de New York, la voilà qui s'installe dans le Milwaukee. Des mentalités parfois un peu différentes, une diversité un peu moins importante, mais Justine et sa famille aiment leur vie en banlieue de Milwaukee, dans le Wisconsin. Ils l'adorent même. Détenteur de carte verte, la fameuse carte de résident permanent aux États-Unis, elle et son mari considèrent même devenir américains dans quelques mois, tout comme leurs enfants. Tout va bien donc. Pourtant, le 10 juin dernier, Justine se réveille. Elle a la nausée et un léger retard de règles, et surtout une grosse intuition. Quelques heures plus tard, sa suspicion est confirmée. Justine est enceinte, pour la 4e fois. Une grossesse non désirée, non planifiée, à laquelle elle décide de mettre un terme assez rapidement. Et à ce moment-là, commence une course contre la montre. Alors qu'on sait que la Cour suprême américaine s'apprête à révoquer le droit à l'avortement dans les jours qui suivent, elle se heurte à des professionnels qui refusent de l'aider. Alors aujourd'hui, Justine nous raconte cette semaine folle, de juin 2022, à travers le Wisconsin et l'Illinois. Je suis Anne-Fleur Andrely. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites.
Bah, ça faisait 2 jours que j'avais un retard de règles, voilà. J'avais un retard de règles et puis dans la nuit, je me suis réveillée avec la nausée. Je me suis dit, oui, il y a un truc bizarre, parce que ça m'avait fait ça pour mes autres enfants quand j'étais tombée enceinte. Donc là, je me suis dit, il y a un truc bizarre. Et puis bah, voilà, j'ai fait un test le matin et j'étais enceinte. Sauf que, alors nous, c'était clairement pas prévu d'avoir un 4e enfant. On en a quand même déjà 3. C'était absolument pas prévu d'avoir un 4e. On commence enfin à sortir de l'eau, on va dire, avec notre fille qui a 2 ans. Et ça commence à devenir un petit peu plus facile, on va dire. Donc voilà, et puis On va pas se le cacher, on est aux États-Unis, tout coûte, ça coûte cher d'avoir des enfants. Hein. Les études derrière, etc., ça coûte très cher. Donc voilà, c'était clairement pas dans les plans. Alors je m'étais toujours dit que si un jour ça nous arrivait, jamais je pourrais avorter. Et finalement, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'ai ouvert la porte de la salle de bain pour aller voir mon mari. Et c'est le premier truc que je lui ai dit. Je suis enceinte, faut prendre rendez-vous pour aller avorter. Et je me suis effondrée, j'étais en pleurs, parce que bah, clairement, je pensais pas un jour devoir me retrouver dans cette position-là. On se protégeait. Lui venait d'avoir une vasectomie un mois avant. Et on savait qu'il fallait du temps pour que la vasectomie, c'est pas efficace tout de suite. Hein, faut jusqu'à 3 mois, etc. Donc on se protégeait entre-temps, mais je tombe enceinte très facilement. Et on a eu beau se protéger, je suis tombée enceinte. Moi, voilà, j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, en fait, moi, dans ma tête, j'ai pas pensé. Pour moi, ça allait pas être compliqué, en fait. On savait qu'il y avait cette histoire de Roe v. Wade qui devait passer bientôt, etc.
Qui avait été fuité dans Politico.
Voilà, ça avait été fuité. C'était pas encore officiel. Mm-hmm. On savait que c'était dans les plans. Mais moi, j'ai pas pensé dans ma tête à me dire, ça va être compliqué ou voilà. Et puis, donc moi, j'ai appelé mon docteur. En fait, pour moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais appeler mon docteur, mon gynécologue, je vais aller chez le gynécologue, il va me donner les médicaments, et puis basta, en fait. Et puis, j'ai appelé mon gynécologue, et je suis tombée sur une dame d'un certain âge à l'accueil. Je lui ai dit, je suis enceinte, on ne peut pas le garder. Et elle m'a dit, je comprends pas, vous voulez quoi? Et en fait, juste pour me faire dire, je veux avorter. Et puis, elle m'a dit, ah non, mais on ne fait pas ça ici. Je lui ai dit, ok. Et puis, il y a eu un grand blanc et je lui ai dit, je fais quoi? J'appelle qui? Je fais quoi? Elle me dit, vous pouvez essayer le Planned Parenthood, donc l'équivalent du planning familial. Je lui ai dit, ok. Je pense qu'elle a vu que j'étais un peu, j'étais au bord des larmes. Je pense qu'elle l'a un peu senti. Elle m'a dit, vous voulez parler quand même à l'infirmière? Et puis, je lui ai dit, oui. Donc, elle m'a demandé mon numéro, etc. Elle m'a demandé mon contact pour pouvoir que l'infirmière me rappelle plus tard. Puis c'était un jour où les enfants venaient, c'était le premier jour des vacances des enfants. On avait prévu des choses avec les enfants, etc. Donc j'ai essayé de faire un peu comme si de rien n'était avec les enfants. Et on est parti voir des copains, etc. Et puis forcément l'infirmière m'a rappelé, j'étais en voiture avec les enfants, donc je pouvais pas parler. Entre temps, moi j'ai appelé le Planned Parenthood et ils avaient un rendez-vous 2 semaines après. Il y avait 2 semaines de délai pour avoir un rendez-vous. Donc moi je me suis dit j'avais déjà des nausées, je me suis dit je peux pas attendre 15 jours en fait, j'ai des enfants, si je suis malade comme j'avais été malade avec ma fille et mon deuxième fils, c'était juste pas possible, j'avais pas 15 jours en fait, et j'étais sûre de ma décision, je voulais pas rester 15 jours comme ça en fait à le subir finalement, et donc voilà, j'avais pas le choix finalement.
Il y a bientôt 50 ans, les États-Unis légalisaient l'avortement à travers tout le pays. En 1973, la Cour suprême promulgue l'arrêt Roe v. Wade. L'avortement devient un droit constitutionnel. Il est autorisé jusqu'à 23 semaines de grossesse, moment à partir duquel le fœtus est considéré comme viable. Cette décision historique donne naissance à de violentes manifestations menées par des groupes religieux et qui vont se politiser au fil des années.
Les délais de recours à l'avortement pour mettre un terme à une grossesse, donc, qu'elle soit viable ou non, non désirée ou même dangereuse pour la vie de la mère, varient en fonction de chaque État. Dans le Wisconsin, avant d'être interdit fin juin, ce délai pour les interventions médicamenteuses était de 11 semaines. Une fois le rendez-vous pris, s'ensuit un procédé particulier et à nouveau propre à chaque État. Justine nous raconte le processus dans le Wisconsin.
Quand j'ai appelé le Planned Parenthood, elle m'a expliqué qu'il y a un premier rendez-vous qui d'ailleurs coûte $125, qui même si l'assurance prenait en charge n'est pas remboursée dans tous les cas. Donc il y a un premier rendez-vous où là, en gros, ils font l'écho. Ils sont obligés de faire l'écho et de la montrer. On peut tourner la tête si on veut, mais l'écran est obligé d'être face à nous. On est obligé en gros d'avoir l'écran face à nous. Planned Parenthood, ils sont vraiment pro-choice, ils bossent vraiment là-dessus, mais la loi fait qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Même parce que eux, tout ce qu'ils voudraient, c'est ne pas avoir à faire subir ça aux femmes, finalement. Mais la loi, en gros, leur dit, ok, vous pouvez faire des avortements, mais sous telles conditions. Donc les conditions, c'est qu'il y a un premier rendez-vous, et que, qu'il y ait l'écho, on fait tout un laïus en disant, si vous gardez le bébé, vous aurez ça comme option, machin, alors qu'au final, faut pas se cacher, on est aux États-Unis, c'est quoi les options? On n'aide pas les gens financièrement, spécialement, etc. Donc, ils expliquent qu'il y a telle association qui pourra vous aider, il y a telle, si vous avez besoin d'un foyer, il y a tel foyer qui pourrait vous aider, etc. Ou j'imagine qu'ils posent aussi, finalement, peut-être les options de l'adoption, peut-être, derrière, je ne sais pas. Et donc, il y a ce premier rendez-vous qui coûte $125. Et après, il y a au moins 24 heures avant le second rendez-vous, en gros, de réflexion. Pour, j'imagine en espérant, mais je crois que c'est pareil en France.
Je crois que c'est pareil, il y a un délai. Ouais.
Je crois qu'il y a aussi un délai comme ça en France. Donc, ce deuxième rendez-vous, soit donc, il y a la prise des médicaments, soit aspiration suivant ce qu'on choisit. Donc, on a le choix. Et je sais que le Planned Parenthood, dans le Wisconsin, ils en ont trois. Donc, un à Milwaukee, un à Sheboygan, qui est une heure au nord, et un à Madison, qui est une heure à l'ouest. Et après, il y avait trois... Je sais que dans le Wisconsin, en tout, il y a six cliniques seulement qui font les avortements pour tout l'État. Donc, il y a vraiment... Il y a déjà, il y a peu d'options, finalement. Et après, donc, il y a des centres, je sais que par exemple, si c'est médicaments, il y a plus de centres qui le font, mais si c'est l'aspiration, il y a moins de centres. Et au téléphone, donc, voilà, elle m'a dit, voilà, le deuxième rendez-vous, donc moi, je voulais par médicament, le deuxième rendez-vous, c'est $475.
Ah, donc il n'y a rien de pris en charge.
En gros, c'est au bon vouloir de l'assurance, mais la plupart des assurances ne prennent pas. Nous, on a appelé notre assurance et ils ont dit à mon mari, ils ont demandé si c'était notre choix, donc c'était élective, si c'était notre choix. Et on a dit, bah oui, c'est notre choix, il n'y a pas de raison médicale. Et ils ont dit, bah, on ne prend pas en charge. Donc, en gros, notre assurance aurait pris en charge, je pense, voilà, si c'était une grossesse extra-utérine, si ma vie était en danger, etc. Là, ils auraient pris en charge. Mais comme c'était choisi, ils ne prenaient pas en charge. Donc, ça veut dire qu'il faut, voilà, $600. Tout le monde ne peut pas mettre $600. Voilà, on a eu la chance de ne pas avoir à se poser la question. Mais la plupart des gens, voilà, qui travaillent, qui n'ont pas des boulots, qui payent des 1000 et des 100, bah, faut sortir $600 comme ça, en fait. C'est compliqué. Déjà que la décision est très difficile psychologiquement et en plus financièrement derrière, bah en fait déjà on peut ne pas avoir le choix finalement. Il y en a sûrement qui n'ont pas le choix que de ne pas avorter finalement. Quand j'en ai parlé, j'en ai discuté avec une copine qui est dans le New Jersey. Elle m'a dit que c'était pareil, qu'elle avait dû avorter dans le New Jersey et que c'était pareil, qu'il n'y avait pas de rendez-vous avant en fait 6 semaines. Moi je pensais que c'était parce qu'ils n'avaient pas de place. Et en fait, non, c'est qu'ils attendent 6 semaines de grossesse parce qu'à l'échographie, on voit beaucoup plus ce qu'il y a par rapport à quand on est à 4 semaines. Parce que moi, j'étais à 4 semaines, je venais de l'apprendre. Donc, à l'échographie, on voyait rien. Finalement, il n'y avait rien. Alors qu'à 6 semaines, bah, on voit déjà plus. Donc, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Voilà. Donc, moi, j'avais rendez-vous 2 semaines après. Puis, je pense que mon mari... voilà, moi, à un moment, dans la journée, j'ai même dit à mon mari, je rêve que d'une chose, c'est de m'endormir et de me réveiller dans 15 jours, en fait, et que ce soit fini, quoi. Et puis, il a un peu retourné tout Internet pour essayer de trouver une solution. Et en fait, on s'est aperçu que dans l'Illinois, bah, c'est beaucoup plus facile d'avorter, d'aller là-bas pour avorter, etc. Et on a trouvé une clinique à 1h15 de chez nous. Bah, j'avais un rendez-vous le lendemain. J'avais qu'un seul rendez-vous, donc j'allais au rendez-vous. Si je voulais une écho, il me faisait une écho. Si je n'en voulais pas, il ne m'en faisait pas. Et puis, c'était qu'un seul rendez-vous, donc ça coûtait... Bah, c'était $475. Il n'y avait pas les $125. C'est le même prix, finalement. Bah, moins les $125.
Et c'est une clinique privée, du coup, c'est pas un Planned Parenthood?
C'était une clinique privée. Et d'ailleurs, quand j'ai appelé le Planned Parenthood la veille, à la fin, elle m'a donné le rendez-vous, etc., à la fin, elle m'a dit « Ne vous inquiétez pas, il y aura des manifestants devant, etc. » Qu'il y en avait beaucoup, que physiquement, ils n'ont pas le droit de nous toucher normalement, etc. Mais que voilà, eux ont des gens qui sont là exprès pour escorter en fait, les gens rentrer et pour sortir. Et ma copine qui a utilisé le Planned Parenthood dans le New Jersey me disait que bah ils avaient dû être escortés pour sortir, ils n'arrivaient pas à sortir tellement il y avait de gens, etc. Devant. Donc voilà. Et donc là, la chance que j'ai eue, c'est que la clinique privée où je suis allée était dans un building de bureaux, etc. Il y avait plein de choses. C'était un énorme building. Donc déjà, si on veut pas savoir qu'on va là-bas, finalement personne ne peut savoir qu'on se rend vraiment dans une clinique pour avorter. Et le parking était privé. Donc, du coup, les manifestants ne pouvaient pas être sur le parking.
Donc, tu peux les voir en voiture, mais ils ne vont pas aller t'embêter.
On est passé en voiture. On a vu deux mamies qui manifestaient avec un panneau, avec des trucs anti-avortement dessus, etc. Mais voilà, déjà, il n'y avait que deux personnes. Et puis, bah, c'était pas... j'étais en voiture. Je marchais pas à côté d'elles, etc.
Tu t'es pas senti agressée, quoi.
Voilà, pas du tout. Donc, c'était vraiment bien fait. C'est ce que je leur ai dit quand je suis arrivée là-bas. Je dis, c'est vrai que le fait d'être dans un building privé, bah, ça change tout par rapport au Planned Parenthood qui est sur la voie publique, quoi. Donc, on a décidé de faire 1h15 de route. On a laissé nos enfants à une copine. Et puis, on est allés tous les deux. Il n'a pas pu venir avec moi puisque, bah, du coup, c'était à cause du Covid, etc. Il faisait rentrer que les femmes. Ouais, ils autorisaient que les femmes à rentrer. Quand je suis arrivée, d'ailleurs, on s'imagine que finalement... Donc, déjà, on s'imagine que l'avortement, c'est quelque chose qui arrive qu'aux jeunes... aux petites jeunes, etc., qui n'ont pas d'enfants déjà, etc. Alors que hier, j'ai entendu dire hier que... 60% des femmes qui avortent ont déjà des enfants. Et voilà, on s'imagine aussi que c'est un truc pas forcément répandu, mais bah, moi, quand je suis arrivée dans la clinique, il y avait une fille avant moi, et quand je suis ressortie, il y avait une autre fille après moi. Voilà, on n'était pas plusieurs en même temps, etc. Je pense qu'ils évitaient que les gens se croisent trop, mais il y avait quand même, je veux dire, c'était non-stop, quoi. C'était quand même non-stop, et dans un état où il y a plus, voilà, il y a plus, quand même beaucoup plus de cliniques là-bas aussi, etc. Donc... Et puis, bah, ils m'ont laissé le choix ou pas de avoir une écho. Donc, j'ai pas eu à... Voilà. Si je voulais une écho, j'en avais une. Si j'en voulais pas, donc au début, je lui ai dit non. Et puis, en fait, le matin, une chance finalement, je l'ai commencé à saigner en fait le matin juste avant mon rendez-vous. Sauf que, bah voilà, on sait très bien que ça veut tout et rien dire. Donc, ça pouvait être une fausse couche, comme bah, ça pouvait être normal, comme on peut saigner en début de grossesse. Et puis, du coup, au début, elle m'a dit OK, on fait pas d'écho, etc. Et puis, elle m'a demandé d'aller aux toilettes, de vérifier quand même comment je saignais. Et elle m'a dit, l'avantage de faire une écho, c'était du coup de... Elle pouvait voir si j'étais vraiment en train de faire une fausse couche ou pas. Et puis, bah, donc, pour que j'ai pas à prendre les médicaments, que j'ai pas à payer, du coup, si j'avais pas besoin. Et pas à prendre les médicaments, puisque bah, c'est quand même dur pour le corps. Donc, pas avoir à prendre les médicaments pour rien. Et puis, on a fait l'écho. Et à l'écho, elle m'a dit, OK, vous saignez beaucoup. Mais elle pouvait absolument pas confirmer que j'étais en train de faire une fausse couche parce que tout semblait intact. Donc, de toute façon, moi, j'ai dit, mon choix est fait. De toute façon, voilà. Je vais pas me rendre compte. Si c'est pour me rendre compte dans une semaine que je suis encore enceinte, finalement, c'est pas la peine, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, donc du coup j'ai pris le premier médicament là-bas sur place, donc c'est pas un médicament par voie orale que j'ai pris là-bas, et vraiment elle était gentille, voilà, absolument pas de laïus sur faut faire si vous gardez le bébé, machin, etc. Elle m'a juste demandé si quelqu'un m'avait forcé à venir, si j'étais sûre de mon choix, et c'est tout, vraiment très bien. Donc un premier médicament à prendre qui en gros c'est une grosse dose d'hormones qui arrête du coup qui arrête la grossesse en fait finalement. Et puis après, elle m'a donné une dose de médicament hein, que je prendrai chez moi 3 à 4 heures après. 4 pilules à mettre en gros dans le vagin et qui provoquent des contractions. Donc pour voir éjecter, etc. Et donc elle m'avait fait une prise de sang sur place et j'en avais une autre à faire. Donc c'était le samedi matin et j'en avais une autre à faire le lundi pour vérifier que ça avait bien marché. Donc en général, les contractions commencent dans les 4 à 6 heures après. On s'est rendu compte finalement à la prise de sang après que j'étais bien en train de faire une fausse couche et je pense que du coup, ça a vraiment aidé. Je m'attendais à pire. Des amis qui étaient passés par là, etc., m'avaient dit voilà, que c'était vraiment atroce. Je m'attendais à des douleurs d'accouchement, etc. Et je pense que bah, le fait que ça se faisait naturellement, dans tous les cas, même si j'ai pris les médicaments, etc., ça a quand même aidé. J'ai eu mal, j'ai eu des grosses douleurs de règles, etc. Mais c'était pas aussi horrible que je me l'imaginais, quoi. Psychologiquement, ça a aidé parce que franchement, j'avais beau être sûre de mon choix, savoir que je voulais pas de quatrième enfant. J'avais beau en être sûre, c'est la décision la plus dure que j'ai eu à prendre de toute ma vie.
Tu l'as fait très, très vite.
J'ai 3 autres enfants, donc. Je pouvais pas me retrouver pendant 15 jours à être malade. Voilà, fallait que... Ils venaient juste d'être en vacances. En plus, les deux grands, c'était leur premier jour de vacances, etc. Je savais comme j'avais été malade avec les deux derniers. Et puis, on savait aussi qu'il y avait en plus cette menace que l'avortement soit annulé rapidement après, finalement, parce que c'était encore légal à ce moment-là. Pile poil 15 jours après, c'est devenu illégal dans le Wisconsin d'avorter. À 2 semaines près, voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis, mais à 2 semaines près, en fait, dans tous les cas, je suis allée dans l'Illinois, mais à 2 semaines près, j'aurais pas eu le choix, en fait. J'aurais vraiment été obligée de sortir de mon état dans tous les cas. Et puis, bah voilà, maintenant, c'est le problème aussi, c'est que bah, du coup, dans l'Illinois, les cliniques se retrouvent complètement débordées, puisque là-bas, c'est légal. Ici, c'est illégal maintenant.
Et puis, l'Illinois est entouré de plusieurs États qui ont interdit. Donc, il y a le Missouri.
Voilà, c'est ça. Bah, en fait, tous les États autour, je crois.
L'Ohio.
C'est ça, puisque alors nous dans le Wisconsin, il y a le Minnesota aussi qui autorise encore, donc on a voilà les gens qui sont plus vers Minneapolis peuvent aller là-bas, mais voilà oui voilà tous les États, l'Iowa annulé il me semble, l'Indiana, mais donc du coup voilà ils se retrouvent débordés puisque tous les gens autour finalement gravitent maintenant vers l'Illinois quoi, parce que voilà c'est devenu illégal. Dans le Wisconsin c'est un peu encore c'est devenu illégal, on est revenu à une loi de 1849. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, comme après Roe v. Wade en 73, il y a d'autres lois par rapport à ça qui sont passées. Donc du coup, ces lois, bah, on n'arrive pas à savoir si du coup elles sont encore valables, etc. Et comme la loi de 1849 n'avait plus été utilisée pendant plus de 50 ans, ils estiment qu'au bout de 50 ans, quand une loi n'a pas été utilisée, en gros, elle n'est plus valable. Donc c'est encore très compliqué. Donc en gros, c'est illégal. Il y a des chances que ça soit dans tous les cas illégal, voilà, si rien n'est fait au niveau du pays, vraiment, voilà, ça risque de rester vraiment illégal. le gouverneur a dit aux juges, etc., de ne pas poursuivre les médecins qui pratiqueraient des avortements, etc. Mais bah, les médecins, ils osent pas, en fait, même si les juges disent « Ok, on va pas vous poursuivre et compagnie ». Mon mari m'expliquait qu'en gros, il suffit que, ok, là, par exemple, donc le juge, en gros, est démocrate, donc il ne va pas poursuivre, etc. Mais si, dans quelques années, ce juge-là change et que c'est un conservateur, du coup, lui pourrait dire, ah bah oui, mais tout ce qui a fait, ça pourrait revenir, en fait, que tout ce qui a été fait dans les 5 dernières années, bah, finalement, c'était illégal, etc. Donc, et là, du coup, de les poursuivre. Donc, en fait, les docteurs, même si, par certains moyens, ça sera encore possible de le faire, ils disent, bah non, on ne prend pas de risque, en fait. On ne prend pas de risque de se retrouver en prison, de perdre nos licences, etc. Et de ne pas pouvoir, de plus pouvoir être docteur et de se retrouver en prison, en fait. Donc, voilà, c'est devenu... Et voilà, je me dis qu'à deux semaines près, ce que j'ai fait qui était légal à ce moment-là, ça serait illégal, finalement, maintenant. Et là, je lisais tout à l'heure que les républicains du Wisconsin, les élus, etc., sont en train de pousser pour que les femmes qui sortiraient de l'État pour aller se faire avorter soient poursuivies en justice. D'un côté, Biden vient de dire que non, les femmes les protégeraient, etc. Nous, on a quand même des élus qui disent... Et du coup, ils sont en train de dire que ça veut dire que, par exemple, même si tu fais une fausse couche, on pourrait enquêter sur toi pour savoir si c'est bien une fausse couche, en fait, et si c'est pas que tu t'es fait avorter illégalement quelque part, etc., quoi.
T'es parti dans un autre état parce que le délai était important, parce que les conditions, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de cliniques qui, à partir du moment de la fuite dans Politico, ont eu peur, en fait, parce que se dire, OK, et si ça se passait, et si c'était révoqué, parce qu'on savait quand même que ça allait arriver, en pleine procédure, est-ce qu'on finit ? Et qui, du coup, en fait, ont quasiment cessé leur activité avant d'être décrétées illégales par certains États.
Ils savaient à peu près que, de toute façon, avant fin juin, ça allait passer. On savait que ça allait être dans le mois, un peu à n'importe quel moment, mais voilà, c'est ce qu'ils disaient. Ils savaient à peu près que ça serait en juin. Et nous, ils avaient décidé qu'au samedi... alors, du coup, c'était passé le 26. Ils avaient décidé qu'au 27, de toute façon, ils arrêtaient tout. Qu'ils avaient trop peur qu'en fait, justement, de se retrouver dans cette situation. Déjà, de planifier, pour d'avoir des gens sur leur planning, etc., de devoir tout annuler... Et d'avoir dit aux gens, oui, on pourra faire votre procédure, et finalement, c'est pas possible de le faire. Donc, pour que ces femmes puissent se retourner finalement vers un autre état, etc., de pas avoir à attendre le dernier moment, puisque c'est pareil, on a aussi cette histoire de questions de semaine, en fait, parce que moi, je l'ai découvert tout de suite, mais dans certains états où ils disent, vous avez jusqu'à 6 semaines pour avorter, 6 semaines, ça fait 2 semaines de retard de règles, en fait. Ça peut être normal pour certaines personnes d'avoir des retards de règles, etc. Donc voilà, moi, j'ai eu la chance de le savoir tout de suite, mais. Donc c'est pour ça, ils avaient décidé qu'au 27, de toute façon, ils arrêtaient le 27 de planifier les avortements, etc. Ils arrêtaient les procédures à ce moment-là. Et puis finalement, c'est arrivé la veille. La responsable du planning familial écrivait dans un post sur Instagram qu'il était 9h13 quand ils ont reçu le message disant que ça avait été révoqué. Et toutes les filles qui étaient après ça, donc ils s'étaient dit que dans tous les cas, ils finiraient les procédures, même s'ils étaient en plein avortement, puisque ça posait. C'était une question peut-être de vie ou de mort, c'était une question de vie ou de mort. Donc ils finiraient la procédure, ils ont fini les procédures qu'ils étaient en train de faire, mais du coup, ils ont dû annuler toutes les procédures qui étaient prévues pour après ce moment-là et le lendemain.
Et c'est donc désormais une loi datant de 1849 qui régit ce droit à l'avortement dans tout l'État du Wisconsin.
Par exemple, en cas de danger pour la vie de la mère, il faut qu'il y ait 2 docteurs qui se mettent d'accord.
Genre, t'as vachement le temps, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, une nana qui fait une grossesse extra-utérine, c'est un avortement. Il faut procéder à un avortement. C'est une question de... Ça peut être une question de minutes, une question d'heures. Et la personne peut mourir entre-temps, en fait, le temps que les docteurs se mettent d'accord et qu'ils se disent « est-ce qu'on va pas se retrouver avec les juges sur le dos, je ne sais quoi, si on le fait ?» C'est très, très compliqué. C'est ça, en plus. C'est qu'en plus d'interdire les gens d'avorter, c'est aussi un danger de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort pour certaines, quoi. Donc...
Comment tu vis, en fait, tous ces changements dans un pays dans lequel tu te vois vivre toute ta vie, quoi, finalement.
Surtout qu'en plus, la veille de ça, ils avaient passé un autre truc sur les armes à feu, etc. Comme quoi, chaque État ne pouvait pas décider pour les armes à feu, mais par contre, pour l'avortement, chaque État doit décider. Donc, ça, j'avoue qu'en quelques jours, ça a fait beaucoup, quand même. Ça a fait beaucoup de choses. On s'est posé la question.
Tu t'es posé quoi comme question ?
Bah, en fait, on a déjà que... Bah, voilà, moi, j'ai 30 ans, donc clairement, ça pourrait m'arriver de nouveau. J'ai encore, on va dire, je peux encore avoir 20 ans derrière où je pourrais tomber enceinte, finalement. Donc, d'un, ça pourrait m'arriver de nouveau. On a une fille qui a 2 ans. On a des fils aussi, hein, à qui bah, ça pourrait arriver, à leur copine, à leur femme plus tard, etc. Donc, on s'est posé la question. Et en même temps, on a la chance... Bah, on a la chance. On a la chance de ne pas avoir trop à se poser la question en se disant que bah, si on a besoin... de changer d'état, si on a besoin de rentrer en France pour avorter, on peut le faire. Parce que voilà, financièrement, on n'a pas... c'est horrible, parce qu'en fait, beaucoup ne peuvent pas. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas prendre un avion ou même juste la voiture pendant, faire de la voiture pendant 2 heures, louper le travail, etc. D'un côté, voilà, on adore notre vie ici, en fait. Donc, c'est très compliqué parce qu'on a le côté où on adore notre vie ici. Et le côté où ça change beaucoup en ce moment, bah c'est, voilà, entre les armes à feu et compagnie, où ça devient de plus en plus compliqué, les situations deviennent de plus en plus compliquées, l'avortement, c'est vrai que voilà, c'est très compliqué. On est très bien ici, on vient d'acheter une maison, on se voit faire notre vie ici, finalement. Et d'un autre côté, on se dit, bah mince, qu'est-ce qu'on fait si la situation ne change pas, en fait? Qu'est-ce qu'on fait si dans quelques mois, voilà, la situation n'a pas changé, si c'est de pire en pire, et etc., en fait? C'est très compliqué, du coup. C'est très bizarre. J'avoue que j'étais quand on a appris que Roe v. Wade était révoqué, j'étais franchement, j'avais l'impression d'être complètement à l'ouest toute la journée et les jours qui ont suivi, en fait, de me dire c'est pas possible, en fait. Et voilà, c'est très compliqué parce que bah voilà, on se dit finalement on a beau avoir plus de 30 ans, faire attention, etc. Ça nous est arrivé à nous, donc ça peut, voilà, on se dit que ça peut arriver à n'importe qui. Qu'on n'ait pas d'enfants, qu'on ait des enfants, qu'on ait les moyens, qu'on n'ait pas les moyens. Et voilà, et nous, voilà, d'un côté, bah, on se dit, on n'a pas trop... Bah, si, parce qu'en plus, d'ailleurs, par exemple, dans le Wisconsin, si ça devient illégal, si on n'a pas le droit de changer d'état, on fait comment si ça nous arrive de nouveau, etc. Donc on voyage en espérant ne pas se faire attraper parce qu'on est allé autre part, etc. On va voir comment la situation évolue, mais c'est vrai que c'est ce que je disais à mon mari. Je dis d'un côté, je ne me vois pas rentrer en France, je ne me vois pas. Ou alors changer d'état. Mais ça veut dire, voilà, on vient d'acheter une maison, c'est très compliqué quand même. Changer d'état pour aller dans un état, voilà, bah, ou déménager à une heure d'ici dans l'Illinois. Mais voilà, c'est compliqué parce que d'un côté, on adore notre vie ici, et de l'autre côté, en ce moment, voilà, niveau politique, c'est très compliqué, quoi. On se dit que, voilà, pour l'instant. Si ça devait arriver de nouveau, on aurait les moyens de le faire. Mais malheureusement, il y a tellement de gens qui n'ont pas les moyens. Et c'est ça qui me révolte. Hein. Qui me révolte parce que bah, quelqu'un qui ne gagne pas des milliers des cents, quelqu'un qui n'a pas moyen de faire garder ses enfants, qui n'a pas moyen de louper le boulot. Tout simplement, on est aux États-Unis. Hein, louper le boulot, ça peut coûter son poste, clairement. C'est très compliqué. Donc, s'il faut partir pendant 2-3 jours pour aller avorter dans un autre état, etc., voilà, il y a des gens qui ne pourraient pas se le permettre. Et puis, financièrement, c'est, bah, y a déjà les $600, les $600 minimum. Et d'ailleurs, là où je suis allée, moi, pour avorter, dans la clinique où je suis allée, elle me disait que dans l'Indiana, donc l'état d'à côté, bah, qu'ils avaient beaucoup de gens qui venaient de l'Indiana et que ça pouvait coûter jusqu'à $1,300 pour avorter. Déjà que c'était pas facile, déjà que quand c'était autorisé, c'était pas facile, mais alors là, le fait que plein d'États aient arrêté de le faire, c'est très compliqué, quoi.
For me, it's tragic because we fought so hard to get this law passed. In 1973, when it finally won the victory, now 50 years later, they have jerked this away from us.
We pretty much went back 100 years with this Roe versus Wade overruled. It's insane.
Si vous vivez aux États-Unis, vous avez peut-être vu ces panneaux Abortion equals healthcare. L'avortement, c'est aussi une question de santé, finalement. Et Justine nous explique.
Il y a beaucoup de gens qui disent, bah, même si les États interdisent les avortements, ils autoriseront par exemple quand même en cas de grossesse extra-utérine, etc. C'est pas un avortement. Mais si, si, c'est un avortement. Il y a plein de docteurs qui pourraient refuser de le faire parce que c'est considéré comme un avortement et ils pourraient se faire poursuivre, etc.
Sachant que dans une grossesse extra-utérine, c'est la vie de la maman aussi qui est en jeu.
Ah bah, qui est en jeu, clairement. De toute façon, s'il n'y a pas d'avortement, la femme y passe, quoi. Enfin, la mère décède, puisque en gros, sa trompe explose et elle se vide de son sang, quoi, dans son corps. Et puis même, psychologiquement, une fille sur Instagram qui disait bah, qu'elle avait avorté parce que elle avait déjà 3 enfants aussi, et puis mentalement elle disait que bah voilà, elle avait un syndrome post-traumatique, etc. Que mentalement, que pour elle et pour sa famille, en fait, avoir ce bébé, c'était dangereux finalement. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est ce que je me pose la question, de qu'est-ce qui va se passer de toutes ces femmes qui ne peuvent pas avorter, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens d'accueillir un bébé, que ce soit financièrement, que ce soit psychologiquement, etc. Est-ce qu'il va pas y avoir des suicides? Est-ce que ça va faire des enfants qui vont être abandonnés de plus en plus, alors qu'il y a déjà 130 000 enfants dans le système aux États-Unis, ça va faire des enfants en plus qui sont sûrement jamais adoptés parce que il faut aussi avoir les familles qui veulent les adopter derrière, etc. Et puis on va avoir beaucoup de femmes qui vont tomber dans les escaliers, qui vont se prendre des coups dans le ventre, qui vont on va comme c'était fait avant avec des aiguilles à couture et par essayer par n'importe quel moyen. Et il disait par exemple aussi hier. Il disait surtout sur TikTok, je crois d'ailleurs justement, qu'il y a des recettes d'herbes, etc., de plantes, de choses comme ça qui passent pour essayer de faire avorter, en fait. Et il disait, mais surtout pas, c'est hyper dangereux. Et il y a plein de choses qui sont mises en place pour avoir des pilules pour avorter en ligne, etc. Mais par exemple, nous, dans le Wisconsin, le site, par exemple, Plan C, donc Plan B, c'est la pilule du lendemain, et donc Plan C, la pilule pour avorter. Nous, dans le Wisconsin, on n'a pas le droit d'y accéder. Il y a un autre site internet, et en gros, on voit des docteurs en ligne, en visio, en Europe, et les pilules sont envoyées depuis l'Inde, par courrier. Ce qui risque de devenir problématique, c'est qu'en plus, dans les États où c'est interdit, quand on refait des recherches, etc., sur internet, tout est traqué, en fait. Donc, faut aussi. Ils disaient, utiliser tel moteur de recherche et pas tel moteur de recherche, etc. Parce que, on pourrait se faire traquer et puis être poursuivi parce que. Parce qu'on a essayé d'avorter, en fait. Donc, même en le faisant légalement par ces sites qui sont autorisés, vu que dans les États, c'est pas autorisé, ça peut être très compliqué, quoi. Ouais, c'est dur. Et voilà, on se demande, moi, je me dis, si ça arrive de nouveau, etc., comment ça se passe si le Wisconsin commence à poursuivre les gens qui doivent avorter. Je pense que, on va voir comment la situation évolue dans les prochains mois, etc., mais... On se posera peut-être la question, clairement, de déménager dans un autre état ou je pense pas revenir en France, parce qu'on n'a absolument pas prévu de revenir en France, à voir comment les choses évoluent. Mais c'est aussi d'ailleurs, finalement, c'est une chose qui. On veut la nationalité américaine, nos enfants sont américains, et puis on veut pouvoir voter parce qu'on veut rester ici, etc. Mais d'un autre côté, on se dit, si on a la nationalité, ça nous permet de pouvoir revenir en France, si on veut revenir en France quelques années, et puis de pouvoir revenir ici après, si besoin, etc. On n'est pas par rapport aux cartes vertes où il y a des conditions, machin. Si on vraiment, on a la nationalité l'année prochaine et qu'on se dit, on veut rentrer en France, ça va vraiment pas, on trouve que la situation s'est absolument pas améliorée. Ça nous laisse l'option de pouvoir partir dans un autre pays et revenir plus tard, si on souhaite revenir plus tard, quoi.
Commenter, là, du coup, est-ce que tu as... espoir. Quel sentiment tu as en fait actuellement? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ce pays qui t'a apporté énormément de choses finalement aussi, quoi?
D'un côté un peu, je trouve que les choses ont pris un tournant, que ce soit les armes, que ce soit ça, etc. Assez compliqué très rapidement, je trouve. Donc d'un côté, un peu désespéré par rapport à ça. Et en même temps, il y a des élections qui arrivent bientôt, les élections pour les
midterms.
Ouais, il y a les midterms qui arrivent au mois de novembre, donc je pense que ça va, avec un peu de chance, aider. Et que, c'est ce qu'il disait, qu'il y avait sûrement beaucoup de femmes qui ne votaient pas habituellement et qui, là, vont aller voter, etc. Et donc je pense qu'on en saura aussi plus après les midterms, un peu voir comment la situation du pays va décider, clairement, des 2 prochaines années. J'essaie d'avoir espoir parce que, ça fait 11 ans que je suis là et que je m'imagine pas, clairement pas, aller vivre autre part, etc. Et on a fait notre vie, on a été très bien accueillis ici, je ne me verrai pas devoir partir. Donc on essaye d'avoir espoir, mais j'avoue que le fait qu'on se pose la question de se dire si on a la nationalité, ça nous permettra de rentrer, c'est quand même qu'on se dit si les choses tournent mal et que ça évolue pas dans le bon sens, c'est... Mais en même temps, j'en ai mal au ventre de m'imaginer devoir partir, en fait. Mais on est bien ici, on vient d'acheter une maison, nos enfants... nos enfants sont hyper heureux. Je me verrais pas du tout devoir bouger, même aller dans un autre état, en fait. On est on se sent chez nous ici finalement et on n'a pas envie de bouger quoi. Mais bon, à voir comment ça évolue. Voilà, c'est ça. Enfin, on a des enfants, on a aussi des enfants à protéger d'un autre côté. Donc c'est très compliqué.
Et si on se sent concerné, qu'on a envie d'agir, concrètement, quelles sont nos options ?
Bah alors, la chose la plus importante, c'est ce que d'ailleurs beaucoup d'associations disent, etc., c'est d'aller voter. Clairement, même le président l'a dit, hein, c'est un peu le seul moyen, même s'il a essayé de faire passer des choses, etc. Vu que pour l'instant, ils n'ont pas la majorité au Sénat, la première chose à faire, c'est si vous pouvez voter, allez voter. Et puis, j'ai fait une manifestation tout de suite ce week-end-là, en fait. C'est passé le jeudi, et il y a eu une manifestation organisée à Milwaukee. On était beaucoup, d'ailleurs. Et ça m'a vachement impressionnée parce que je m'imaginais me retrouver avec des femmes de mon âge, finalement, 20, 30 ans, jeunes, etc. Il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup de personnes âgées, d'ailleurs. Et par exemple, j'ai vu un couple, c'était un papy-mamie avec leur fils qui est atteint d'une trisomie. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, finalement, ça mobilise tout le monde. C'était je m'imaginais pas ça du tout. Je m'imaginais pas une telle ampleur, d'ailleurs, autant de monde. Je sais pas combien on était, mais... Je pense qu'on était, plus de 1000, je pense. Hein. Vraiment, on était beaucoup. Je m'imaginais pas ça. Et surtout, ouais, des gens de tous les âges, de tous les âges, des gens qui sont venus avec leurs enfants, des personnes homosexuelles. Il y avait vraiment des personnes LGBTQ. Tout le monde était représenté finalement. Et parce que on sait que le problème, c'est aussi sûrement leurs droits, justement, le droit des personnes LGBT. Qui est le suivant par rapport au mariage, etc. Donc ça a vraiment, et c'est ce qu'il disait en fait, si on met déjà l'avortement en cause, il y a sûrement beaucoup de choses qui risquent d'être remises en cause. Ça a fédéré beaucoup de monde. Donc il y a des manifestations qui sont organisées régulièrement. Il y a des fonds qui sont mis en place, notamment par Planned Parenthood, etc. Où on peut faire des dons pour aider. Donc par exemple Planned Parenthood, s'il y a besoin, donc ils ne font plus d'avortement par exemple dans le Wisconsin, mais ils peuvent vous conseiller, vous dire faut aller à tel endroit, etc. Et il y a des fonds qui sont mis en place pour payer le déplacement, pour payer l'hôtel s'il y a besoin d'un hôtel, etc. Pour les femmes qui doivent changer d'endroit pour le faire. Donc il y a le Planned Parenthood le fait, mais il y a plein d'associations, plein de fonds qui ont été créés, etc. Pour pouvoir aider. Donc ça aussi, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, mais voilà, c'est les choses principales. Aller voter de toute façon, il n'y a que comme ça finalement que ça changera. Voilà, c'est pour ça aussi que on demande la nationalité, c'est pour pouvoir voter quand tout le temps, mais surtout quand ce genre de choses arrivent, quoi. Pouvoir aussi exprimer notre opinion et. Ça fait déjà un moment qu'on est là et on prévoit normalement de rester ici, donc pouvoir exprimer notre opinion aussi.
Écoute, je te remercie d'avoir pris un moment pour discuter avec moi de tout ça, pour expliquer finalement la situation aussi. Je pense que c'est important qu'on en parle.
Mais on en parle peu, finalement, on en parle très peu et on... c'est un peu finalement comme quand on fait une fausse couche, etc., où on n'en parle pas, on le cache. Et finalement, on en parle peu. Et je me suis aperçue autour de moi qu'il y avait plein de gens. Déjà, au début, je ne voulais pas en parler. Même moi, je ne voulais pas en parler. Et puis, finalement, quand j'ai vu comment c'était compliqué, c'était déjà donc, psychologiquement, c'est très compliqué. Mais en plus, avoir un peu des bâtons dans les roues, alors que finalement, je m'avoue chanceuse parce que ça a été facile. Pour nous, ça a été facile. On pouvait bouger. On pouvait aller dans un autre état, etc. Donc c'était facile. C'était déjà quand même psychologiquement compliqué. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler aussi, parce que je me suis dit finalement c'est hyper tabou. Personne n'en parle. Et quand j'en ai parlé moi sur Instagram, je sais pas, j'ai une trentaine de femmes qui sont venues me voir en me disant moi aussi j'ai avorté. Je m'attendais absolument pas à ça. Certaines l'ont fait en commentaire et plein d'autres sont venues en privé me le dire. Et en fait je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas parce qu'on n'en parle pas. Et en fait finalement ça arrive à plein de personnes. Donc je trouve que du coup, c'est quand même important, et puis surtout en ce moment, du coup, d'en parler et de dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que clairement, je ne pensais pas, moi, un jour, être dans cette situation-là. Hein. Surtout après avoir eu 3 enfants, c'est pas du tout la situation dans laquelle on pense se retrouver un jour. Et puis, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quand dans sa vie. Et c'est bien, finalement, d'en parler et de... Surtout en ce moment, il y a besoin d'en parler et besoin de se donner un peu les bons plans de comment faire, vers qui se tourner, etc. quoi.
Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin?
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Justine Pereira pour ce moment passé avec nous et un grand merci à vous, bien entendu, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Les ressources dont Justine nous parle, je vous les mets dans la description de cet épisode ainsi que dans l'article que vous retrouverez sur frenchmorning.com. Je vous remercie d'être présent chaque semaine et je suis très heureuse de commencer cette 4e saison déjà en votre compagnie. Merci pour votre fidélité et bienvenue à vous si vous êtes nouveau par ici. Comme le veut la tradition, je vous propose qu'on écoute un petit extrait de ce dont on va parler la semaine prochaine.
Madame Anne Fleur. Il y a beaucoup de culture mondiale dans les classes de français. Les enfants sont très culturally aware. Mm-hmm. Donc, ils savent, les enfants sont exposés à la culture mondiale et ils savent que le français n'est pas seulement en France, mais partout dans le monde.
Vers la fin de l'année ou en mars, ils font une grande, comme une foire où les parents sont invités et donc il y a différentes stations et ils découvrent un pays et ils font une activité justement pour réaliser que le français n'est pas que la Tour Eiffel à Paris, mais que c'est une langue qui est parlée dans le monde entier, qui est, je crois que c'est la cinquième langue la plus parlée.
Ouais, franchement, moi je le recommande, mais peut-être que je suis pas très objective. Non, j'irais, venez à Milton, installez-vous à Milton.
Et oui, la semaine prochaine, je vous propose le premier volet de notre série en 3 épisodes sur l'apprentissage du français à l'école bilingue à l'étranger. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, encore merci de nous avoir écoutés, excellente journée à vous et à mardi prochain pour de nouvelles histoires.
Alors attends, je voudrais quand même faire une petite pause. Est-ce que tu peux me remontrer tes mains, s'il te plaît? C'est le drapeau américain?
Ouais, c'était ma manucure. Bon là, ça a un peu bougé, mais c'était ma manucure
du 4 juillet
pour le 4 juillet.
C'est génial. Ah, et patriote, t'es devenue américaine depuis que t'es là?
Non, pas encore.
Non? C'est un truc que t'aimerais?
Non. Ouais, on attend le retour de France, là, et puis on entame les démarches.
Ça veut dire que vous vous projetez aux États-Unis à long terme?
Ouais, on sait qu'on reste ici et on n'a pas, voilà, on a les cartes vertes pour l'instant et on veut la nationalité. Les enfants sont américains et puis on veut rester ici, donc on veut pouvoir voter, etc. Donc oui, non, on prévoit pas du tout de rentrer.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!